Splendeur et misère des courtisanes. Scène de la vie parisienne. D'Honoré de Balzac. Préface. L'aplatissement, l'effacement de nos mœurs va croissant. Il y a 10 ans, l'auteur de ce livre écrivait qu'il n'y a plus que des nuances. Mais aujourd'hui, les nuances disparaissent. Aussi, selon l'observation très spirituelle de l'auteur de Louison d'Arquin et du pauvre de Montlhéry, n'y a-t-il plus de mœurs tranchées et de comiques possibles que chez les voleurs, chez les filles et chez les forçats. Il n'y a plus d'énergie que dans les êtres séparés de la société. La littérature actuelle manque de contraste, et il n'y a pas de contraste possible sans distance. Les distances se suppriment de jour en jour. Aujourd'hui, la voiture tend à se mettre au-dessous du piéton, et c'est le fantassin qui bientôt éclaboussera le riche dans la petite voiture basse. L'habit noir triomphe. Ce qui est dans les habits et dans les roues anime également les esprits, vit dans les manières et dans les mœurs. Un ministre va très bien en demi-fortune chez le roi. Nous avons vu des fiacres dans la cour des Tuileries. Les habits brodés du ministre, du général, du membre de l'Institut, le costume, en un mot, est honteux de se montrer et a l'air d'une mascarade. Nous avons trop raison contre notre époque, et comme le vice auquel nous nous attaquerons est une effroyable hypocrisie, il va sans dire que nous devenons immoraux. Ceci nous a paru très nécessaire à dire en tête d'un livre où sont peintes les existences dans toute leur vérité, des espions, des filles entretenues et des gens en guerre avec la société qui grouille dans Paris. Faire les scènes de la vie parisienne et y omettre ces figures si curieuses, c'eût été le fait d'une couardise de laquelle nous sommes incapables. D'ailleurs, personne n'a osé aborder le profond comique de ces existences. La censure n'en veut plus au théâtre, et cependant Lucaret, Madame la Ressource, sont de tous les temps. Pour compléter les scènes de la vie parisienne, l'auteur a encore le palais de justice, le monde du théâtre et le monde des savants à faire, car le monde politique appartient à la série des scènes de la vie politique. Cela fait, il y aura eu peu d'oubli, car l'auteur prépare comme contrepoids et comme opposition un ouvrage où se verra l'action de la vertu, de la religion et de la bienfaisance au cœur de cette corruption des capitales. Et c'est une œuvre à la fois si longue et si difficile qu'il y a bientôt 3 ans qu'il y travaille sans pouvoir la terminer. Les méchancetés d'un saint et la baronne de la chanterie sont 2 fragments extraits de cet ouvrage, formidable de vertu, et où chacun pourra compter les misères affreuses sur lesquelles repose la civilisation parisienne. En commençant les « Scènes de la vie parisienne » par les 13, l'auteur se promettait bien de les terminer par la même idée, celle de l'association faite au profit de la charité, comme l'autre au profit du plaisir. On ne peut guère pénétrer dans le corps social dogmatiquement à la façon d'un traité de D'Alembert sur le goût. Il faut bien aller dans les prisons et dans les profondeurs de la justice menée par un criminel. Et de même qu'ici, le banquier nous conduit au milieu des intrigues de la vie exceptionnelle des Lorettes. Ce roman, composé de détails profondément vrais et pour ainsi dire historiques, pris enfin à la vie privée, s'arrêta au seuil de la force et au cabinet du juge d'instruction. Aussi doit-il avoir une suite. Le monde judiciaire et ses figures tient trop de place dans Paris pour ne pas être scrupuleusement étudié, dépeint, reproduit. Aussi, sous peu, la grande et immense figure de Paris au XIXe siècle sera terminée, nous l'espérons. Pas une de ses particularités ne sera omise. Ici, Corentin, Peyrade et Contenson représentent l'espionnage sous ses 3 faces, comme Vautrin est à lui seul toute la corruption et toute la criminalité. Bien des gens ont eu la velléité de reprocher à l'auteur la figure de Vautrin. Ce n'est cependant pas trop d'un homme du bagne dans une œuvre qui a la prétention de daguerréotyper une société où il y en a 50 000. Ferragus, dans les 13 est un accident, dont les existences incessamment menaçantes attireront tôt ou tard l'attention du législateur. Quelques plumes animées d'une fausse philanthropie font, depuis une dizaine d'années, du forçat un être intéressant, excusable, une victime de la société. Mais selon nous, ces peintures sont dangereuses et antipolitiques. Il faut présenter ces êtres-là, ce qu'ils sont, des êtres mis à toujours hors la loi. Tel était le sens, infiniment peu compris, de la pièce intitulée « Vautrin ». Où le personnage concluait à son impossibilité sociale en offrant le combat dramatique de la police et d'un voleur incessamment aux prises. Peut-être rendra-t-on plus tard justice à l'auteur en voyant avec quel soin il a mis en scène ces figures, si curieuses, de la courtisane, du criminel et de leurs entourages, avec quelle patience il est allé chercher le comique, avec quel amour du vrai il a trouvé les côtés beaux de ses caractères, par quel lien il les a rattachés à l'étude générale du cœur humain. Certainement, le baron de Nucingen est le Géronte moderne, le vieillard de Molière, moqué, dupé, battu, content, vilipendé, dans le costume et avec les moyens modernes. Ce livre offre donc une des mille faces de Paris, et dans la comédie humaine, il vient après La princesse de Cadignan, Les fantaisies de Claudine et de la maison Nucingen. Peut-être trouvera-t-on Esther, pleine de grandeur, dans les environs de la corruption élégante et froide de la princesse et des monstruosités de la haute banque. À moins de ne pas se rendre compte du but et des moyens de l'auteur, qui, en définitive, a entrepris l'analyse et la critique de la société dans toutes ses parties. Aucun lecteur ne peut lui refuser le courage d'aller au fond des questions et de les examiner sous tous leurs aspects. En ceci consiste, selon lui, la philosophie d'une œuvre. Quant au jugement définitif, à la morale, au sens, il ne se fera pas attendre. Si l'auteur écrivait aujourd'hui pour demain, il ferait le plus mauvais des calculs. Et pour lui le drap serait pire que la lisière. Car, s'il voulait le succès immédiat, productif, il n'aurait qu'à obéir aux idées du moment et à les flatter, comme ont fait quelques autres écrivains. Il connaît mieux que ses critiques les conditions auxquelles on obtient la durée d'une œuvre en France. Il y faut le vrai, le bon sens. Et une philosophie en harmonie avec les principes éternels des sociétés. Mais ces conditions ne peuvent pas être acquises à tous les détails. Elles doivent se trouver dans l'ensemble, et jusque-là, les gens superficiels auront le droit de médire. Il faut bien accorder quelque chose aux dieux modernes, la majorité. Ce colosse au pied d'argile, dont la tête est bien dure, sans être en or, car elle est en alliage. Dédicace à Son Altesse le Prince Alfonso Serafino di Portia. Laissez-moi mettre votre nom en tête d'une œuvre essentiellement parisienne et méditée chez vous ces jours derniers. N'est-il pas naturel de vous offrir les fleurs de rhétorique poussées dans votre jardin, arrosées de regrets qui m'ont fait connaître la nostalgie et que vous avez adoucies quand j'errais sous les boschetti dont les ormes me rappelaient les Champs-Élysées? Peut-être rachèterais-je ainsi le crime d'avoir rêvé Paris en face du Duomo, d'avoir aspiré à nos rues si boueuses sur les dalles si propres et si élégantes de Porta Renza. Quand j'aurai quelques livres à publier qui pourront être dédiés à des Milanaises, j'aurai le bonheur de trouver des noms déjà chers à vos vieux conteurs italiens parmi ceux des personnes que nous aimons, et au souvenir desquels je vous prie de rappeler votre sincèrement affectionné de Balzac. Août 1838. Première partie. La fille repentie, ou Esther heureuse, ou Comment aiment les filles.